Il y a quelque temps, dans un texte qui s'intitulait
Introduction à la guerre civile.
Un passage m'avait arrêté. Tout m'y semblait important, et je n'étais entièrement d'accord avec rien, sans savoir pourquoi, sans dégager une sorte de frouillérisme contrarié.
Au milieu de la collection plutôt fournie, des moyens que l'Occident remis en œuvre contre toute communauté, il en est un qui occupe depuis le 12e siècle environ une place à la fois prédominante et insoupçonnable. Je veux parler du concept d'amour. Il faut lui reconnaître, au travers de la fausse alternative qu'il a fini par imposer partout, tu m'aimes ou tu m'aimes pas, une sorte d'efficacité assez redoutable pour ce qui est de masquer, refouler, pulvériser toute la gamme hautement différenciée des affects, tous les degrés, par ailleurs criants des intensités qui peuvent se produire au contact des corps. Avec cela, c'est toute l'extrême possibilité d'élaboration des jeux entre formes de vie qui leur a servi à réduire. Assurément, la misère éthique présente, qui fonctionne comme une sorte de permanent chantage au couple, lui doit beaucoup. Pour preuve de ce qui précède, il suffira de se rappeler comment, tout au long du processus de civilisation, la criminalisation de toutes les passions est allée de pair avec la sanctification de l'amour, comme seule et unique passion, comme la passion par excellence. Naturellement, cela vaut pour la notion d'amour elle-même, et non pour ce que, contre ses propres desseins, elle aura tout de même permis. Je ne parle pas seulement de quelques perversions mémorables, mais aussi du petit projectile « Je t'aime » qui est toujours un événement.
Ah oui, fourriériste, l'éloge des perversions et la critique de l'amour civilisé, cette façon de se rapporter à la passion qui cautionne une gigantesque disqualification de la passion. Mais très peu fourriériste, le geste de jeter l'amour aux ronces en même temps que le couple. L'amour était pour Fourier la passion cardinale, celle qui peut aider à comprendre et à développer les autres. D'où l'importance de savoir comment s'y rapporter, au-delà de l'hommage obligé à la déclaration d'amour, dont il n'est pas si sûr que ce soit toujours un événement. S'il faut vraiment se prononcer là-dessus, j'aime carrément mieux dire, même si c'est aussi par provocation, tout le monde sait que c'est un propos de Jean Foutre.
À vrai dire, ce qui m'intéresse dans ce texte, autant que ce passage, c'est ce qui suit immédiatement, et le fait que ce soit ça qui suive.
L'ami est celui à qui me lie une élection, une entente, une décision, telle que l'accroissement de sa puissance comporte aussi l'accroissement de la mienne. L'ennemi est de manière symétrique celui à qui me lie une élection, une mésentente, telle que l'accroissement de ma puissance exige que je l'affronte, que j'entame ses forces.
Voilà, j'ai l'impression que l'escamotage de la question de l'amour permet de mettre au premier plan le partage ami-ennemi, et puis de déplacer la notion d'élection, entendue comme décision politique, de l'amour à l'amitié. Geste risqué, puisque choisir un ennemi nous force à une certaine constance dans les menées qui visent à l'affaiblir, de sorte que mal choisir un ennemi, c'est risquer de s'abêtir ou de s'ennuyer.
À mon avis, comprendre le tracé d'une ligne ami-ennemi comme un geste d'élection est moins risqué que prometteur de désastre. Est-ce qu'il y aurait du sens à dire que des camarades se choisissent? Ils se rencontrent en fonction de leur position et en vue de continuer à les élaborer, mais ils ne se choisissent pas. Il y a une grande différence entre se rencontrer et se choisir. Je ne vois pas comment on peut être communiste si on n'est pas sensible à cette différence. Et l'amour n'est peut-être que l'exemple le plus extrême de rencontre entre humains, au sens où Jean Renoir, le cinéaste, s'étonnait que cela soit possible, que des humains se rencontrent. C'est parce que sa question était « Comment les humains se rencontrent-ils ?» que son cinéma est à la fois traversé comme aucun autre par la question de l'amour et qu'il a pu cheminer avec les communistes.
Reste qu'un bon nombre de nos problèmes reviennent à savoir comment la dimension inélective du communisme peut ne pas être purement et simplement incompatible avec l'existence de relations préférentielles. Mais une chose me semble évidente, qu'il y ait des préférences, et même des préférences exclusives, cela ne doit pas être considéré comme un critère, mais comme un fait, qui est un élément du problème, Un fait problématique pour qui veut vivre en communiste.
À moins que ce ne soit ce qui supprime tout problème. N'est-ce pas cela l'amour? Passer de la question de l'élection, pourquoi cette femme plutôt que cette autre, cet homme plutôt que celui-là, ce corps plutôt que cet autre, à la perception de ce qui suffit. Passer de la perception qu'une femme nous prive de toutes les autres femmes, un homme de tous les autres hommes, à la perception que cet être singulier, âme et corps, suffit.
On peut dire cela à condition de faire l'économie de l'inconstance amoureuse, ou du moins de la question de comment continuer, qui se pose à tous ceux qui s'aiment lorsqu'ils atteignent la limite de l'état amoureux. Or, en ce point, l'élection ne suffit pas, car, comme les personnages des affinités électives le disent si bien, il est assez de cas où l'union intime de deux êtres, et qui semblait indissoluble, a été détruite par l'intervention accidentelle d'un troisième. Une nouvelle élection peut sans cesse chasser la précédente. Dans son essai sur les affinités électives, Walter Benjamin fait l'hypothèse que la dimension de l'élection est au fond plus faible que celle de la décision, et d'être élective n'élève en rien une affinité, ne la transforme pas en quelque chose capable de durer. Cela, seule une décision peut le faire.
Dès le début, les personnages sont sous le charme des affinités électives. Or, leur action énigmatique, Goethe l'a compris de façon profonde et riche en pressentiments, ne fonde pas un accord spirituel intime entre les êtres, mais seulement l'harmonie particulière des couches naturelles les plus profondes.
Dans cette perspective fatale,
tout choix est aveugle et mène aveuglément au désastre. Sans que Goethe, semble-t-il, en fût pleinement conscient, déjà le titre de son livre implique un jugement porté sur l'élection, en lui-même et pour lui-même, affinité est bien le meilleur terme imaginable pour définir exactement, dans sa valeur comme dans ses fondements, le lien le plus intime qui puisse unir les hommes. L'élection ne peut en rien le renforcer, et surtout, l'élément spirituel d'une telle affinité ne saurait se fonder sur l'élection. Mais chaque fois que l'affinité devient l'objet d'une décision, elle transcende le niveau de l'élection.
Cette dimension de la décision, c'est pour Benjamin, celle qui anime le mariage, compris non comme institution, mais en tant qu'il exprime la permanence de l'amour, lequel, par nature, chercherait plutôt son expression dans la mort que dans la vie.
Tu ne crois pas que c'est la même chose, le mariage et la mort? Deux êtres condamnés à tourner à jamais en orbite autour du désir et du mépris? Voilà une perception assez habituelle, et à mon avis aussi assez juste, de ce qu'est le mariage.
Moi, je me souviens d'une phrase de Pavésé qui dit
« L'unique joie au monde, c'est de commencer. »
Et aussi
« Je suis convaincu qu'il y a plus d'habitude dans les aventures que dans un bon mariage. » Parce que le propre de l'aventure, c'est de conserver une restriction mentale de défense. C'est pour cela que n'existent pas de bonnes aventures. Est bonne cette aventure à laquelle on s'abandonne, le mariage en somme, au besoin même l'un de ceux qui sont faits dans le ciel. Celui qui ne sent pas l'éternel recommencement qui vivifie une existence normale et conjugale est au fond un idiot qui, quoi qu'il en dise, ne sent même pas un vrai recommencement dans chaque aventure.
Alors, tu crois que ça peut exister, un bon mariage? Qu'il est possible de sortir de l'égoïsme à deux des époux?
Mais toi, qu'est-ce que tu penses de ceci? Qu'il arrive que deux êtres
s'apprécient tous les deux davantage qu'ils n'apprécient séparément personne d'autre, et préfèrent chacun être apprécié par l'autre que par quiconque. Que deux êtres se sentent tout simplement comme chez eux ensemble, qu'ils puissent ou non vivre ensemble sous le même toit, c'est-à-dire trouver un toit sous lequel ils puissent vivre ensemble.
Moi, ce que j'appellerais mariage, c'est la réponse que l'on donne à la question « comment continuer ?» L'invention des figures que peut prendre le lien entre s'abandonner et commencer, sans lequel l'abandon équivaut à une résignation, le contrat signé une fois pour toutes. Et la recherche effrénée du nouveau départ à une répétition abrutie du même et à une fuite devant la difficulté de changer. De même qu'amour et désir ne s'identifient pas, mais que néanmoins le problème de l'attraction doit se frayer un chemin dans la végétation emmêlée de l'amour, de même, quoique amour et mariage ne s'identifient pas, un amour qui ne se confronte pas au problème du mariage n'est pas un amour. Ou, pour le dire autrement, il n'existe de problème du désir. Le désir ne devient la composante d'un problème que dans sa relation avec l'amour, et de même le mariage. Ni lui, ni le divorce ne sont des institutions, mais des épreuves d'une unique question. Une question qui touche à la possibilité de trouver une forme d'affirmation de la durée de l'amour dans l'existence.
Comme si l'amour était le luxe doré qu'on laisse le poète prendre pour l'exposer, et le mariage le côté usagé qu'on cache à la vue.
Au fond, il faudrait inverser le lien entre mariage et divorce. Comprendre le divorce non comme l'issue de secours toujours ouverte, la clé de voûte du libéralisme existentiel, de toute façon on pourra toujours divorcer, mais comme ce qui, d'une certaine manière, précède tout vrai mariage.
Seuls ceux qui sont déjà mariés peuvent authentiquement se marier. Comme si vous saviez que vous êtes marié seulement quand vous vous rendez compte qu'il vous est impossible de divorcer, c'est-à-dire quand vous découvrez que vous n'arrivez tout simplement pas à démêler vos vies l'une de l'autre. Si votre amour est heureux, c'est un éclat de rire qui saluera cette découverte.
Mais quel amour ne périrait pas au contact de la quotidienneté conjugale ?
Il a fallu, dit-on, plusieurs milliers de millénaires à la nature pour sélectionner les espèces qui nous paraissent adaptées. Et nous aurions la prétention de résoudre d'un coup, en une seule vie, le problème de l'adaptation de deux êtres physiques et moraux des plus hautement organisés. Tout nous montre que 100 000 essais ne seraient pas encore assez pour constituer les premiers éléments tout balbutiants et empiriques d'une science du mariage heureux. En tentant de réduire ou de dissimuler le caractère de pari que revêt objectivement un choix de cet ordre, on donne à croire que tout se ramène à une sagesse, à un savoir, et non pas à une décision. La garantie d'une union raisonnable dans les apparences n'est jamais dans ses apparences. Elle est dans l'événement irrationnel d'une décision prise en dépit de tout et qui fonde une nouvelle existence, initiant un risque nouveau.
Plus l'amour est grand, plus le mariage est risqué. Mais ce que j'appelle mariage, ou plutôt remariage, ne dit rien de la forme de vie dans laquelle peut perdurer le lien amoureux. Cela ne dit pas du tout, en tout cas, que ce soit sous la forme du couple formant ménage. Peut-être les couples pourraient-ils former tout autre chose que des ménages ou des communautés.
Quoi ?
Je sais pas, moi. Des machines à gazouiller ?
Tout bonheur meurt de lui-même.
Tout bonheur se survit à lui-même.